RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans Je pense donc j'agis, la seconde partie. Hein. Que la montagne est belle, nous dit Jean Ferrat. Bah oui, elle est belle, mais pour beaucoup, elle reste inaccessible, trop loin, trop chère. Parfois, c'est un peu compliqué. Alors, on va s'intéresser jusqu'à 11h à cette accessibilité à la montagne, mais aussi de ce qu'on peut faire à la montagne. Il n'y a pas que le ski, il y a aussi la randonnée. Et la randonnée, c'est plutôt accessible. On va en discuter avec nos invités. Et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos réactions, vos témoignages. Parlez-nous de votre lien à la montagne, de votre amour à la montagne. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois la montagne reste inaccessible parce que trop loin ou trop cher? Comment vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous vous contentez, même si c'est déjà beaucoup, de faire des randonnées? Ou alors vous essayez de trouver des solutions pour quand même partir à la montagne, en tout cas pendant les vacances ou pendant l'été, bien sûr. On vous attend au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail, toujours à l'adresse direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et nous continuerons d'agir à 10h55 avec Pascal Gréboval. Il est le rédacteur en chef du magazine Keizen, un magazine qui explore des solutions écologiques et sociales, qui était à la montagne la semaine dernière et qui aura justement quelques petites choses à nous dire. Et pour nous accompagner dans cette émission, on aura le plaisir d'accueillir à partir de 10h30 Éric Larose. C'est le président d'une association qui s'appelle Montagne et Science, mais on en a déjà deux d'invités avec nous. Bonjour Irène Alvarez.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RCF. Vous êtes la fondatrice d'une association qui s'appelle Immersion Montagne. Vous êtes passionnée par la montagne et on va pouvoir en discuter ensemble. Bonjour Hugues Chardonnet.
Bonjour.
Vous êtes le délégué national de l'association 82-4000. Avec une conviction de votre côté, c'est que certes, l'alpinisme peut être un rêve, mais vous rendez l'alpinisme accessible à beaucoup de personnes. Et ça, on va voir comment dans un instant. Moi, j'aimerais démarrer avec vous par évoquer la montagne. Qu'est-ce que c'est la montagne pour vous, Hugues Chardonnet, dans votre vie?
Ah, la montagne, c'est à une place immense dans la vie d'un passionné. Et c'est un peu comme, c'est comme si vous demandiez à, dans un couple, à quelqu'un qui est très amoureux de son mari ou de sa femme, ça représente qui, votre conjoint? Eh bien, voilà, quand on a rencontré la montagne, elle vous apporte tellement que vous avez envie d'y vivre beaucoup d'aventures. Et là, comment on pourrait dire, la productivité de cet échange, de cette réalité de rencontre et de vie dans un environnement naturel qui appartient à tous, s'épanouit pleinement lorsque l'on peut le partager, le faire découvrir, parce que dans cette conviction, c'est que c'est un bien commun, qui est une partie visible de notre nature, de notre planète brute, qui est à partager absolument.
Ouais. Un amoureux de la montagne, en tout cas, Hugues Chardonnet, on l'entend dans votre témoignage. Je crois que c'est pareil pour vous, Irène Alvarez.
Ouais, tout à fait. La montagne, je pense que une fois que la montagne est entrée dans votre vie, et ça peut être jeune ou moins jeune, je pense que c'est vraiment un lieu. Pour moi, c'est d'abord et avant tout un lieu de rencontre avec les autres, avec qui on partage la montagne, et beaucoup aussi avec la faune et la flore, donc d'autres êtres vivants qui montrent des capacités d'adaptation folles en montagne. Et puis pour moi, ça a toujours été aussi un lieu d'initiation, un lieu initiatique en quelque sorte, dans lequel on transcende, y compris des peurs, on rencontre ses propres ressources. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu. Oui, j'aime beaucoup l'expression de Hugues. À l'état brut, mais pas violent. Et du coup, c'est un super lieu d'initiation pour moi.
Un lieu d'initiation, d'immersion également. Et ça rejoint ce que vous faites dans votre vie, Irène.
Oui, tout à fait. Alors, Immersion Montagne n'est pas une association. Par contre, je collabore aussi très étroitement avec le CREA Mont-Blanc, qui est un centre de recherche associatif. Et dans les deux cas, en fait, l'idée, c'est juste d'observer ce que la montagne... Enfin, c'est se remettre en lien, en fait. Je pense qu'on vit tous un petit peu une érosion du lien social et qui est très liée, pour moi, en tous les cas, à l'érosion du lien à la nature. Et donc, c'est se plonger vraiment dans le vivant en montagne, en s'appuyant aussi beaucoup sur la frugalité, ce qui, du coup, le rend un peu plus accessible. Et donc, revenir à des besoins essentiels et qui nous font, en fait, vraiment observer, rencontrer, je dirais, nos territoires intérieurs autant que les territoires de montagne.
Hugues Chardonnet, comment vous l'avez appris à l'aimer, la montagne? Comment vous l'avez rencontré?
Eh bien, c'est avoir le bonheur dans sa vie d'avoir quelqu'un qui généreusement vous dit, moi j'étais tout gamin, j'avais une douzaine d'années, viens, je vais te faire découvrir quelque chose de formidable. Alors que moi, je suis né dans la banlieue, dans une famille où on allait plutôt à la plage. Et ça a été, j'ai envie de dire que le premier choc, pour moi, ça a vraiment été le...
Ah. Hugues, vous êtes éloigné de votre téléphone, mais on vous entend mal, là. Oui.
Je suis revenu,
restez,
ça va mieux.
Bien, là. Voilà. Ne bougez pas.
j'avais un petit écho. Je disais, c'est véritablement la beauté de cet environnement qui m'a vraiment touché très très en profondeur la première fois que j'ai vu un lever de soleil sur le glacier, les rochers. Et on a quelque part, à cet instant T, l'impression d'être sur une autre planète, qui est pourtant bien la nôtre. On est quelque part presque dans la même, je pense, situation que quelqu'un qui atterrit sur la Lune. Et ça, c'est une expérience qui est tellement puissante que, d'une part, on a envie bien sûr, de la reproduire, c'est ce que Irène disait tout à l'heure, mais aussi de la partager. Et ça, c'est vraiment ce qui a été le starter de l'association 82-4000 solidaire. Ça a été de se dire que cette injustice de cet environnement si beau, qui pourtant appartient à tout le monde, qui devrait donc être offert à tous ceux qui ont envie d'y aller, eh bien, en fait, est réservé à des gens déjà très très bien servis culturellement, économiquement. Et on s'est dit, avec quelques amis alpinistes et amateurs et professionnels, que ça pouvait être un joli clin d'œil à la société, pour se dire qu'on pouvait avancer autrement en faisant de la place à chacun. Et donc nous, notre geste d'alpiniste, ça a été de se dire, on va faire de l'alpinisme avec des gens pour lesquels il n'y a plus beaucoup de projets, des gens très très pauvres, des gens qui connaissent une situation de pauvreté extrême.
Et alors, comment vous faites? Parce que l'alpinisme, c'est pas donné à tout le monde quand même.
Eh bien, ça, c'est un petit peu à discuter. Effectivement, c'est ce que tout le monde pense. Et tout à l'heure, vous avez parlé des freins à l'accès à la montagne. Je crois que le frein économique en est un, c'est certain, mais c'est certainement pas le frein le plus important. Un des freins les plus forts, c'est que la montagne, et particulièrement la haute montagne, avec ses exigences, son originalité extrême de mode de, comment dirais-je, de milieu biologique, écologique, cet environnement fait peur, parce qu'on n'en parle toujours que à propos des accidents de montagne, des accidents d'alpinisme, et on oublie que dans le milieu de la montagne, le trait commun le plus fort, finalement, eh bien, c'est plutôt la solidarité, c'est l'accueil inconditionnel, parce que la montagne, en fait, elle est tout le temps ouverte, on ne vous demande pas un ticket d'entrée, et dans les villages de montagne, si vous êtes en difficulté, on va vous donner certainement un coup de main, et la solidarité montagnarde est un trait commun très ancien pour les habitants de la montagne, mais ça, c'est moins connu, voilà, ça fait moins recette probablement dans les médias, et donc la montagne fait peur, c'est vrai, alors que l'alpinisme, dans son mode d'initiation au départ, eh bien, même si vous n'êtes pas sportif, même si vous n'avez pas une culture d'entraînement, vous pouvez marcher sur un glacier, on peut découvrir que le rocher, on peut le toucher, on peut grimper dessus, on peut monter jusqu'à un sommet et avoir une vue qui s'élargit sur presque l'ensemble de notre monde. Mmh. Et je veux dire, c'est une expérience qui ne demande pas obligatoirement d'être un athlète de haut niveau, ouais, avec les poches bien garnies.
C'est ce que j'imaginais surtout. Irène Alvarez, il y a une conviction pour vous, hein, c'est que la montagne, c'est pas que le ski. Vous vous proposez au sein d'Immersion Montagne, qui n'est pas une association, vous avez bien fait le préciser, mais des propositions, hein, pour tout un chacun, de randonnée surtout.
Oui, tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi.
On vous entend. Des randonnées, comment vous les avez imaginées? Parce qu'il y en a plusieurs.
Oui, bien sûr. Ben, comment je les ai imaginées, c'est... Je pense aussi que c'est peut-être un petit peu comme Hugues, l'idée de rendre ce qui m'a été offert par la montagne. Moi, je viens d'un milieu relativement modeste et dans lequel un médecin un jour a dit si vous voulez arrêter de tousser, si vous voulez que vos enfants arrêtent de tousser, ben emmenez-les à la montagne. Et j'ai passé beaucoup de temps dans une caravane le week-end sur le plateau du Vercors et voilà. Et la montagne est devenue très accessible et très enseignante pour moi, sans que ce soit un coût excessif. Et du coup, je pense que je veux rendre une partie de ce que la montagne m'a donné. Et effectivement, il n'y a pas besoin de technicité pour aller en montagne. Chausser des raquettes, je pense que c'est physiquement à la portée de tout le monde. Alors peut-être pas culturellement, effectivement, et je pense que ça, c'est extrêmement important qu'on mette la montagne à la portée de chacun, dans l'imaginaire de chacun, en fait. La montagne n'est pas réservée aux montagnards, elle n'est pas réservée effectivement à ceux qui y sont allés depuis tout petit. Et les raquettes ou la randonnée sans aucun objectif de performance, c'est accessible à tout le monde. Et donc c'est vraiment ce que j'essaye de proposer dans Immersion Montagne, avec beaucoup de cabanes non gardées, par exemple, où là, la solidarité de groupe joue forcément, puisqu'on a tous des passages à vide, on a tous des joies immenses quand on est en montagne. Et du coup, le fait d'être au sein d'un petit groupe permet de les partager et puis de se soutenir. Et le fait d'être souvent isolé en montagne va créer un petit peu cette bulle d'apprentissage pour tout le monde et de performance, mais pas du tout dans la performance physique, mais plutôt dans la performance de dépasser certaines de nos peurs, certaines de nos convictions, de s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouveaux paysages.
Et je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23. Dites-nous ce que vous faites à la montagne et pourquoi vous aimez ça. Parlez-nous de votre lien peut-être intime avec le domaine skiable ou la montagne. On vous attend vraiment à l'antenne pour discuter avec nous. Je sais que c'est les vacances, je sais qu'il y a moins de monde qui nous écoute en ce moment. Mais allez-y, hein, n'ayez pas peur. 04 72 38 20 23. Un message de Jacques qui nous dit « J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à emmener des ados en montagne, l'été et même en hiver. C'est un univers à l'échelle des défis de cet âge. Il m'arrive d'en croiser aujourd'hui et ils témoignent de ce que ces quelques semaines vécues à fond là-haut ont changé dans leur vie. » Bah, Hugues Chardonnet, c'est un témoignage que vous devez certainement entendre, vous, de votre côté, après toutes vos aventures dans l'association.
Oui, c'est impressionnant. C'est cet environnement désertique qui fait peur et qui pourtant est tellement généreux avec ceux qui ont la chance d'y pénétrer, si on peut dire, et on y pénètre parce qu'on est accueilli. Il faut toujours quelqu'un vous y invite, et si cet invitant ou cette invitante le fait avec bienveillance, eh bien ça devient un parcours de vie très structurant. C'est hallucinant, toutes les histoires que nous racontent des personnes qui ont eu la chance de découvrir la haute montagne et qui en rentrant nous racontent une aventure qui montre à quel point l'expérience très concrète de la haute montagne a une puissance transformatrice très forte pour le quotidien. Je croyais plus en moi, c'est les gens qui ont été stigmatisés toute leur vie, en qui on a répété sans cesse qu'on était un bon à rien ou une bonne à rien, eh bien, quelque part, on perdu toute confiance en eux, toute dignité. Et la montagne a cette puissance incroyable de vous redonner cette dignité. Je suis quelqu'un qui a une place dans cet ensemble, dans ce monde, sur cette planète aujourd'hui, et je peux faire quelque chose de bien. Donc en rentrant, chose que j'osais plus faire, je vais aller à la préfecture chercher mes papiers, par exemple, puisque nous on s'adresse à des personnes en grande difficulté. Je vais faire les démarches pour rentrer dans une assoce qui va m'aider à trouver un logement, je vais aller rencontrer un employeur, etc., etc. Et c'est incroyable les milliers de Fioretti que je pourrais vous raconter. Donc d'ailleurs, vous pouvez avoir un exemple dans le livre que nous venons d'écrire, qui s'appelle Les sommets sont à tous, où l'on peut suivre le parcours de quelques bénéficiaires de cette aventure de la haute montagne.
Les sommets sont à tous aux éditions Glénat, je précise. Bonjour Nicole.
Bonjour.
On vous écoute, bienvenue.
Je voulais témoigner que moi, me retrouvant veuve, et pas des grosses finances, hein, j'ai trouvé le club alpin, j'habite Orléans pourtant, mais du coup on fait des week-ends de randonnée, on part dans le Jura ou dans les Vosges ou dans le Massif central. On fait du covoiturage, on loue un gîte tous ensemble, donc ça nous revient pas trop cher. Et l'été, on peut aussi faire, alors on appelle ça des rassemblements, on va dans un camping, chacun apporte sa tente, voilà, on n'est pas seul. Et puis ceux qui sont plus expérimentés proposent le soir, ben moi je propose telle randonnée, ou je propose un glacier, ou je propose de l'escalade. Et voilà, et on s'inscrit pour aller faire la randonnée. Donc c'est une très 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 bonne solution pour quand on n'a pas de très gros revenus, qu'on a envie de découvrir la montagne, et c'est merveilleux vraiment quand on arrive au sommet, après être un petit peu dépensé physiquement et avec plaisir, eh ben on a une grande joie.
Ouais. Qu'est-ce que vous aimez à la montagne, Nicole ?
Ah, moi j'aime beaucoup, j'aime d'abord...
Les randonnées,
Pardon ?
Faire des randonnées par exemple ?
Moi j'aime les deux choses, l'escalade et les randonnées.
Ah oui. Ah, vous êtes une sportive quand même un peu, Nicole, non ?
Ben, j'étais pas sportive, j'étais danseuse, mais l'escalade c'est un énorme plaisir.
Ouais.
Et puis je me suis mis à la randonnée parce que mon mari avait envie, et du coup il m'a fait découvrir, et c'est tellement extraordinaire ces paysages à chaque fois. Et j'ai emmené ma petite fille cet été, à 10 ans, elle a souffert énormément, elle a eu le mal de montagne, elle n'arrivait pas à marcher et tout ça. Et quand on est arrivé en haut, elle m'a dit « Mais c'est ça que tu vois quand tu fais tes randonnées. Oh, et ben je vais m'exercer pour pouvoir revenir. »
Ah bah écoutez, voilà un témoignage intéressant. Merci beaucoup, Nicole, de nous avoir appelé ce matin dans Je pense, donc j'agis. Irène Alvarez, hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accessibilité de la montagne par toutes et tous. Et puis, la notion de randonnée, alors ça doit vous parler plus particulièrement parce que c'est ce que vous proposez dans Immersion Montagne. La randonnée seule ou à plusieurs, vous, qu'est-ce que vous avez comme préférence et puis, qu'est-ce que vous constatez également avec les personnes que vous rencontrez? Est-ce qu'elle préfère venir seule, faire une randonnée ou en groupe?
Alors, je rencontre un petit peu toutes les situations. Il peut y avoir des groupes constitués, des familles, par exemple, qui ont envie de faire découvrir aux enfants une autre manière, enfin, être en montagne, et peut-être une autre manière d'être en montagne sans que ce soit forcément 8 heures de marche par jour. Il y a aussi des gens qui, ben, pour qui c'est une manière de rencontrer d'autres personnes dans un cadre vraiment, je dirais, un cadre doux et d'accueil de l'autre. Et puis moi je pense que moi j'aime beaucoup partir en montagne seule, mais je pense que ça demande une certaine habitude, une certaine confiance en soi, et moi un de mes objectifs pour ceux qui le souhaitent, c'est vraiment de transmettre cette autonomie en fait. Et je me retrouve rarement, ça m'arrive hein, évidemment, mais rarement à la tête du groupe en fait. Pour moi c'est très important que ceux qui le souhaitent aient cette sensation en fait de mener le groupe, de l'écoute de la montagne, du groupe. Pour notamment en raquette, quand on est évidemment hors sentier, et ben de trouver son propre chemin, sa propre trace. Et ça, c'est très riche comme expérience, c'est très structurant. Et donc, voilà, cette autonomie, c'est quelque chose que je souhaite vraiment partager au plus grand nombre.
Voilà. Merci beaucoup encore, Nicole, pour votre appel. Hugues Chardonnet, je rappelle, pour l'association 82-4000, hein, vous vous réunissez avec des alpinistes pour faire découvrir la haute montagne à des personnes issues de milieux défavorisés. D'ailleurs, pourquoi l'association s'appelle 82-4000 ?
Alors, l'association s'appelle 82-4000 Solidaire, avec un S solidaire. C'est une petite tranche de culture alpinistique. Il se trouve que dans les Alpes, dans tout le massif alpin, il y a des très très beaux sommets, plus hauts que les autres, en particulier les sommets de plus de 4000 mètres d'altitude, qui sont des sommets qui nous font rêver, nous autres alpinistes, on a envie de les parcourir tous. Et très très officiellement, il y en a 82, donc répartis entre l'Italie, la Suisse et la France. Et c'est un rêve d'alpiniste de les parcourir. Et donc, quand on a commencé à partager notre rêve avec des personnes qui connaissaient pas la montagne, on a cherché à faire comprendre que nous, on restait des rêveurs qui veulent toujours aller au sommet des belles montagnes avec des amis, avec des en partageant ça. Et que donc c'est ainsi qu'on dirait que parcourir ces 4000 avec des gens en situation de précarité, eh bien c'est un geste solidaire, d'où le nom de l'association 82-4000 solidaires.
Voilà, tout s'explique, Hugues Chardonnet. Allez, on continue de vous accueillir au 04 72 38 20 23. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour Melchior. Je ne voulais pas intervenir, mais je me permets quand même parce que j'ai la chance de pouvoir passer quelques mois par an en montagne, dans le massif du Mont-Blanc, au-dessus de Saint-Gervais d'ailleurs. Pour tout dire, j'ai un tout petit appartement là-bas. Et je me sens, je l'avais acheté vraiment par passion pour la montagne. Par passion, j'ai fait des stages autrefois d'alpinisme, donc de très haute montagne. Et ma mère m'avait aussi donné le goût de la haute montagne. Voilà, je me sens très très humble et très reconnaissante vis-à-vis de cette nature à la fois sublime et extrême. Mais en même temps, je me pose de très très sérieuses questions justement et ça me met pas souvent en colère, je sais que c'est pas bien, mais c'est vrai que quand je vois tous ces immenses chalets qui se construisent à tout va, toutes ces personnes qui exploitent finalement impunément cette nature sublime et puis qui s'imaginent monter au Mont Blanc d'ailleurs comme on va faire le tour du parc d'à côté, oui, ça me pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions parce que on n'achète pas la montagne, le Mont Blanc, entre autres, comme on va acheter une maison ou une voiture de luxe, quoi. Mmh. Donc, voilà.
Eh bien, écoutez.
Ce sont de grandes questions.
Oui. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir apporté ce témoignage qui fait le lien avec la première partie de cette émission où on parlait de l'avenir de la montagne à l'heure de l'urgence écologique. Irène Alvarez, vous, je sais que vous avez un engagement profond pour la préservation de la nature. Vous êtes amoureuse de la nature. Comment vous l'entendez, ce témoignage de Geneviève qui, d'une certaine manière, est en colère par le tourisme assez fort en montagne. Mais on pourra en discuter pendant des heures, hein, remarquez.
Oui. Non, mais je l'entends complètement. Alors moi, j'habite au fond de la vallée de Chamonix et je vois effectivement tous ces chalets vides. Et c'est vrai que c'est un peu un crève-cœur, mais je dirais que c'est pas propre à la montagne. Et je pense qu'on est vraiment un tournant, on va dire, de notre civilisation et notamment de notre rapport aux autres et de notre rapport à la montagne. Et c'est en ça que je trouve que la montagne a un vrai rôle initiatique, entre guillemets, et de redéfinir en fait le fait que nous sommes des vivants parmi les vivants, qu'en montagne ce vivant est un peu extrême, que la nature est encore sauvage et qu'on peut l'observer. Et du coup, pour moi, cette notion de préservation de la nature, elle passe d'abord et avant tout par son observation, sa compréhension, quelque chose qu'on apprend finalement peu à l'école et on en est peu familier. Et donc retrouver en fait ce lien à la nature en montagne. Et effectivement ne plus, enfin en tout cas se dégager de la montagne comme un décor et un support de performance, mais plus comme vraiment une relation profonde à nous-mêmes, aux autres, et aux autres y compris non humains.
Et pour vous, Hugues Chardonnet, sur cette même question?
C'est une question qui nous est extrêmement précieuse parce que l'association, bien sûr, se place dans le champ d'un projet social de la montagne, alors qu'effectivement, ce qui est prévalent aujourd'hui dans le milieu de la montagne, c'est un projet économique, commercial, dur, qui a sa raison d'être pour pouvoir faire vivre des gens et payer des salaires. Et bien, les structures recherchent des clients solvables et le niveau d'exigence économique est de plus en plus élevé. Et ce qu'il se produit, c'est que les territoires de montagne qui sont un bien commun sont achetés, effectivement, comme on dit, par des personnes qui n'utilisent que très très peu ces magnifiques chalets, enfin, si on peut dire que c'est magnifique d'ailleurs, et de ce fait créer un ghetto qui est un désert polluant, extrêmement polluant, avec une exclusion, et c'est surtout ça qui nous touche beaucoup, qui crée une exclusion des gens, des personnes les plus pauvres, pour lesquelles ce milieu devient interdit, alors que c'est, comment dirais-je, un milieu qui leur serait tellement nécessaire pour se ressourcer. Dans cette question, moi je dis la montagne, c'est effectivement la partie visible de notre maison commune, et cette partie visible, il faut en donner une exemplarité sous forme de partage et non pas d'appropriation complètement choquante et scandaleuse, hein, ça c'est sûr, au niveau du projet de société qui est proposé derrière. Et je crois qu'aujourd'hui, on a à donner l'exemple en ouvrant la montagne à des projets sociaux nombreux pour ne pas en faire un lieu élitiste et réservé.
Alors avant d'accueillir Denise et Gilles, parlez-nous justement des actions de l'association 82-4000 Solidaires. Comment ça se passe très concrètement pour emmener toutes ces personnes à la montagne, vivre un rêve, vivre votre rêve également?
Eh bien voilà, on partage effectivement notre rêve d'alpiniste, ça c'est sûr. Alors finalement, vous savez, vous demandez à un guide de haute montagne qu'est-ce qu'il sait faire, il dit ben moi je ne sais rien faire, moi je sais accompagner des gens en montagne. Eh ben alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas ça avec des personnes qui sont dans des grandes difficultés économiques, des gens qui connaissent la pauvreté aujourd'hui et j'espère plus demain. Eh bien, on va cette chance que l'on a de partager la montagne avec des gens en grande difficulté, on l'a réussi grâce à en créant des liens avec des structures sociales qui ont des missions particulières dans les différentes villes de France et même ailleurs, des missions en direction de personnes qui ont des grandes difficultés économiques. Et notre association est née au sein d'ATD Quart Monde, le grand mouvement ATD Quart Monde. Donc oui, Nous sommes une petite fille d'ATD, parce que ça nous a permis de rencontrer des personnes en difficulté qui sont des personnes formidables, qui soulèvent chaque jour des trésors d'inventivité et d'énergie pour survivre, et qui sont mal considérés aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, on s'est mis à se regarder mutuellement avec un autre regard grâce à la montagne, voir dans chacune et chacun d'entre nous une belle personne qui mérite d'être davantage épanoui, qui mérite de réussir sa vie, qui mérite un bonheur dès à présent. Et voilà, c'est cette expérience-là qu'on vit en montagne en organisant des stages qui durent une semaine. Pendant une semaine, on a le temps de découvrir la verticalité, de sortir la corde, de s'encorder, de s'assurer, de traverser un glacier et bien sûr de réussir ensemble. Oui. À la vitesse du plus lent, parce que nous faisons l'éloge de la lenteur, de réussir un beau sommet. Et ça, c'est vraiment un moment très fort. L'association, sinon, est très engagée, comme vous avez compris, pour dire la place des plus pauvres dans la société et le droit au loisir pour tous. Et c'est aussi pour ça qu'on vient de réhabiliter une maison qui appartenait au diocèse des Hautes-Alpes, qui nous a été confiée pour une longue durée. Et nous allons ouvrir cette maison qui sera une des plus belles de Serre Chevalier pour y accueillir des personnes pauvres qui vont pouvoir venir en vacances. Et là, dans des projets de vacances très très simples, familiaux, de groupe.
Bonjour Denise.
Oui, bonjour Melchior et bonjour à tous. Eh bien, je suis votre émission là et je voulais participer. Voilà, j'habite donc à Villard-de-Lans à 1050 mètres. J'y suis née, mes parents...
Il faut couper votre radio, Denise.
Oui,
s'il
alors...
S'il vous plaît.
D'accord.
Parce que sinon, on vous entend plusieurs fois, même moi.
Entendu, excusez-moi.
Voilà. Allez-y. Allez-y, Denise. Faut couper, hein.
Mais oui, mes chers.
C'est marrant parce que je le dis tous les matins, ça. Moi, c'est ma petite tradition du matin. Ah non, là, ça fonctionne
oui,
toujours pas.
Bon, actuellement, il y a chaque hiver, la neige diminue et tous les gens sont un petit peu inquiets. Et les remontées mécaniques ont été rachetées en partie par Tony Parker, notre célèbre footballeur. Et
non, basket, c'est le basket Tony
oui,
Parker. Mais
oui,
basket, c'est pas grave,
pardon,
ça reste du sport.
Oui, et il voudrait faire une construction et ramener pas mal de clientèle de façon à ce que les remontées mécaniques fonctionnent davantage. Mais beaucoup de personnes du village sont inquiets de voir arriver toutes ces nouvelles personnes. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelle solution adopter. Il y a une association qui s'est créée pour contrer cette évolution. Et on est en attente.
Bah, écoutez, merci beaucoup, Denise, d'être venu à l'antenne pour partager tout cela avec nous. Alors là aussi, on pourrait parler longtemps de ce sujet. Et c'est peut-être pas forcément l'objet de l'émission jusqu'à 11h, mais Irène Alvarez, qui n'est plus là. Eh ben, Hugues Chardonnay, du coup, je me tourne vers vous, hein, toujours pour réagir à ce que vient de dire Denise, qui nous dit il y a de moins en moins de neige. Ça, quand même, c'est pas très drôle.
Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec l'humour, parce que
oui, non, mais c'était pas humour, je pense
je,
pas.
Je ne suis absolument pas désespéré. Les évolutions climatiques font partie de l'histoire de l'humanité, et aujourd'hui, nous assistons effectivement à un changement climatique extrêmement rapide dans lequel la responsabilité des hommes est très forte, et donc c'est un éveil. Et je trouve ça formidable d'entendre toutes les personnalités, comme il y avait tout à l'heure sur votre antenne, qui nous réveillent, qui réveillent notre conscience de la responsabilité que l'on a dès qu'on se lève le matin, la façon dont on prend la douche, et la voiture, etc. Et c'est le souci. Mais ce qui est ce qu'on oublie, c'est que le souci principal, certes, de notre maison, c'est de façon à ce que chacun y trouve sa place dans cette maison, et chacun il y ait le souci. Et nous, on est toujours émus dans l'association de voir l'extrême, perspicacité des personnes en grande précarité qui, lorsque souvent on entend quand elles découvrent la montagne pour la première fois, sa beauté, sa singularité, qui nous disent « Oh là là, comme c'est beau, j'aimerais montrer ça à mes enfants. » Et qui, de ce fait, nous disent tout de suite « il faut la protéger. » Alors, la protéger, ça ne veut pas dire ne pas s'adapter aux modifications climatiques, qui sont une obligation. De toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, les alpinistes et les guides en particulier sont habitués à ce type de modifications. On est, de toute façon, des travailleurs saisonniers. L'hiver, on travaille quand il fait froid, on grimpe sur de la glace. Et l'été, il fait chaud, on grimpe sur du rocher. Donc j'ai envie de dire, c'est un modèle intéressant, la montagne, de ce point de vue-là, puisque les montagnards, les habitants des villages de montagne, se sont habitués depuis très très longtemps à avoir une adaptation aux modifications de la planète qui sont extrêmes dans un village d'altitude. Et donc, je trouve pas ça drôle au sens humoristique.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'il y a un chemin humain dans ces modifications, dans lequel les responsabilités incombent certainement à des personnes qui consomment beaucoup, mais où il faut faire une place pour les plus pauvres, et qu'il n'y a pas d'avenir écologique sans avenir social, où chacun trouve sa place.
Et on va continuer d'en parler dans un instant. Hugues Chardonnay, vous restez avec nous. On remercie Irène Alvarez qui est allée poursuivre sa randonnée. C'était prévu parce qu'elle était en pleine montagne en train de marcher. Irène Alvarez qui a créé Immersion Montagne. Et je vous invite grandement à aller sur son site internet pour découvrir toutes ses propositions. immersionmontagne.com. On se retrouve dans un instant. On accueillera Gilles au 04 72 38 20 23. Vous continuez continuez de venir à l'antenne pour nous parler de votre amour, de votre passion pour la montagne. Racontez-nous également ce que vous y faites. À tout de suite.
L'émission Écoute dans la nuit vous invite à prendre part à une conversation autour d'un thème spirituel, philosophique, culturel ou autour d'une question de société. Louis Auxil Maillard et son invité écouteront vos témoignages et partageront avec vous des temps de lecture, de méditation ou de réflexion. Écoute dans la nuit, c'est du mardi au vendredi à 22h.
Un air de sortie, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité culturelle. Bruno Fuma, accompagné de ses chroniqueurs, vous propose un tour d'horizon de ce qu'il faut voir, visiter et écouter. Un air de sortie, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF.
Vivaldi n'est pas très loin dans cette chanson de Stanislas, L'hiver, où on entend un extrait des quatre saisons, enfin notamment l'hiver.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours avec nos invités, Hugues Chardonnet, vous êtes délégué national de l'association 82 4000 Solidaires. Je vous présente Éric Larose qui vient nous rejoindre. Bonjour Éric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF pendant quelques minutes. Vous êtes le président d'une association qui s'appelle Montagne et Sciences. Alors vous n'allez pas échapper à cette question que j'ai posée aux deux invités en début d'émission. Que représente la montagne pour vous, Éric Larose?
Pour moi, c'est il y a plusieurs choses. Hein. C'est d'abord un lieu de pratique de loisirs, Mais c'est aussi un lieu d'exercice de mon métier, puisque je suis, en dehors du fait que j'anime l'association Montagne et Sciences, je suis aussi chercheur à l'Institut des Sciences de la Terre, et je passe beaucoup de temps en montagne sur des problématiques de risques naturels, notamment. Voilà. Donc c'est à la fois une passion, un métier, et puis un espace de liberté et d'aventure plus personnelle pour le loisir aussi. Voilà.
Et
c'est un peu tout ça.
Pourquoi faire le lien dans l'association entre la montagne et la science, ou les sciences plutôt?
Il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu de culture générale. Hein. On est dans une société qui a un niveau de science et de technologie extrêmement élevé, et pour lequel la population en général, nous tous, nous devons un petit peu nous former, ou en tout cas avoir une culture générale qui permette de comprendre les grands enjeux de la société, les grands outils technologiques aussi. Et donc faire découvrir les sciences au travers de la montagne, c'est plus ludique, et puis ça répond aussi à une forme de d'inspiration. La montagne, c'est un territoire d'imagination aussi, d'inspiration, de découverte. Voilà, c'est tout ça qu'on veut faire partager avec le grand public.
Voilà, dans cette association que vous allez nous présenter dans un instant. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Désolé pour l'attente, mais bien sûr, vous êtes en direct. On vous écoute, Gilles.
Alors bonjour à RCF, merci de me donner l'antenne. Bonjour aux auditeurs. Je suis médecin retraité, bientôt 73 ans. J'habite Ouche, à côté de Rouen, et je voulais vous faire part de mes souvenirs de ski de rando. Hein, je veux faire de la pub pour le ski de rando.
Oui.
J'ai commencé vers 14 ans avec mon père et mon frère, et puis ensuite, étant étudiant en médecine à Lyon, avec les copains, on mettait les skis sous le siège de la deux chevaux, et on partait le samedi après-midi pour aller dormir n'importe où chez l'habitant, dans des petits villages où il n'y avait pas de remontée mécanique, et on a toujours été admirablement accueillis par les gens du coin. On a dormi dans les endroits les plus hétérogènes, les écuries, les granges à foin, etc. Et le lendemain, bien sûr, on faisait notre sommet, on repartait. Hein, et je voudrais faire la pub pour le ski de rando, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir la montagne en hiver, hein, loin de toute remontée mécanique. Hein, et je voudrais que les stations développent davantage les itinéraires de ski de rando.
Eh bien, hein, merci Gilles.
Sécurisés.
J'espère
hein,
qu'elles
voilà,
vous ont...
Oui. J'ai 11 petits-enfants, bientôt 12. Alors, je vais les initier peu à peu au ski de rando. Hein. L'aînée a 14 ans, la plus jeune a bientôt 3 ans.
Voilà. Ouais, vous avez du boulot alors. Bon courage, Gilles. Merci beaucoup pour votre appel dans Je pense, donc j'agis. Éric Larose, le ski de rando, est-ce que vous en proposez, vous, dans l'association Montagne et Sciences?
Alors le ski de rando, aujourd'hui, on n'en propose pas dans l'association pour les randonnées qu'on propose, parce que c'est l'encadrement, c'est plutôt avec des guides, et ce qu'on propose dans l'association, c'est aujourd'hui, hein, c'est plutôt des randonnées pédestres et en raquette, encadrées par des accompagnateurs en montagne. Donc effectivement, le ski de rando, on ne peut pas le proposer. Par contre, c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise aussi pour le travail des scientifiques. Hein. Dès qu'on est en hiver, on alterne entre le ski de rando et les raquettes. Et voilà, donc on s'en sert quand même dans nos métiers de scientifiques, mais pour l'association, pour l'instant, malheureusement, on peut pas le faire, mais ce serait avec plaisir qu'on le proposerait si on le pouvait.
En tout cas, vous avez trouvé un amateur, hein. Gilles, qui est venu à l'antenne il y a quelques instants.
Voilà.
Hugues Chardonnet, dans l'association 82-4000 solidaires, vous proposez donc de l'alpinisme, hein, pour toute personne en situation de précarité. Qu'est-ce que vous entendez d'ailleurs par alpinisme? Est-ce que ça touche à la fois à la randonnée, à l'escalade également?
L'alpinisme, c'est effectivement quand on arrive dans le milieu de la haute montagne où une certaine technicité devient nécessaire pour sa propre sécurité, donc liée à la verticalité dans les rochers, dans la glace, dans la neige. Le fait qu'en montagne, il y a de la pente, et de la pente, on risque de glisser. Si on glisse, on peut se faire mal, donc on sort la corde. Ça, c'est typique de l'outil du guide, c'est la corde, et c'est l'outil de l'alpiniste. Et donc, et d'un milieu qui est sauvage, où on marque sa trace. Il n'y a pas de chemin balisé dans la haute montagne, donc il y a cette question aussi de l'orientation, de trouver son chemin. Et là, Gilles qui parlait de, avec beaucoup d'enthousiasme du ski de randonnée, effectivement, le ski de randonnée, c'est une très très belle façon de faire de la haute montagne. C'est une forme d'alpinisme où l'on fait sa trace autant à la montée qu'à la descente. C'est une discipline très esthétique, une vraiment, peut-être c'est difficile de dire la plus belle, mais c'est une très belle façon de faire de la montagne, parce que quand on aime le rocher c'est magnifique aussi, c'est un contact direct avec la nature. Oui, l'alpinisme, c'est cet accès au milieu, à l'univers, qui semble être uniquement fait de rochers et de glace, mais quand on y regarde de près, il y a tout un biotope très riche et très original, absolument magnifique, de fleurs, de lichens, d'animaux qui survivent dans ces conditions difficiles, qui sont des exemples pour nous.
Tout est lié, en tout cas. Bonjour Philippe.
Est-ce que Philippe est là ? Bonjour.
Bienvenue. Oui.
Comment ?
Bienvenue.
Oui, merci.
Mais je vous en prie.
Alors bon, j'apporte juste un petit témoignage de ce que j'ai vécu quand je suis arrivé dans l'Ain avec mon épouse et mes deux enfants adolescents, qui étaient adolescents à l'époque, et la petite dernière cadette qui avait 7 ans à l'époque. On a découvert la montagne avec dans l'entreprise où je rentrais, dans notre club de sport, enfin d'activité physique. Et ça nous a permis de découvrir la montagne, déjà la région qu'on découvrait, parce qu'on venait du nord de la France. Et donc je changeais de métier, nos deux enfants qui étaient adolescents ont beaucoup été perturbés par ce changement de métier et puis de région. Hein, ils étaient adolescents, ils avaient des amis et des copains là-bas d'où on venait. Donc ça les a beaucoup perturbés et ça leur a permis, cette découverte de la montagne et cette activité, de reprendre goût à l'effort, de reprendre goût à la vie. J'allais dire, c'est pas reprendre goût à la vie, mais enfin reprendre goût à toutes ces choses qui les avaient un peu déçus. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez peut-être un peu ce que je veux dire, ce qui fait que maintenant, notre fille cadette habite à côté de Val d'Isère, l'autre fille aînée a découvert la montagne aussi, et puis elle est un peu plus âgée maintenant, mais le goût de l'effort est revenu, et cette découverte en collectif, ce club d'activité, cette découverte en collectif, elle nous a apporté beaucoup à l'époque, et à mon épouse. Voilà, je sais pas si je peux, pardon.
Oui, mais je vous remercie beaucoup, Philippe, d'être venu à l'antenne pour en discuter dans Je pense donc j'agis, et on entend cet amour pour la montagne que vous avez réussi à transmettre à vos deux enfants. Éric Larose, dans l'association Montagne et Sciences, il n'y a pas que une proposition de randonnée, vous faites beaucoup de choses, notamment ce qui tourne autour de l'image et du cinéma.
Oui, c'est ça, on a fondé l'association essentiellement, initialement, pour accompagner le festival Montagne et Sciences, qui est un festival de films d'aventure. C'est des aventures scientifiques en montagne en général. Et c'est un festival qui connaît un vrai engouement. Hein, et on a une dizaine de villes-étapes qui sont... Donc on a une tournée qu'on démarre en novembre à Grenoble et qui se poursuit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et un peu plus loin. Et voilà, la prochaine date sera en février, fin février, à Clermont-Ferrand.
Et pourquoi alors le cinéma ? Je trouve ça intéressant, cette approche autour de la montagne également.
Oui, le cinéma, c'est vraiment un outil pour transmettre des messages très faciles, ludiques. Ce sont des films qui sont des films documentaires accessibles au grand public, qui sont des films de plaisir, hein, qu'on a envie de partager. Et c'est un outil pour faire passer des messages, pour faire passer l'idée que la montagne, d'abord, elle est belle. C'est un endroit merveilleux. Il s'y passe énormément de choses. J'entendais tout à l'heure parler de lichens, de montagnes hivernales où on trouve des tas de faune et de la faune et de la flore. C'est vrai que c'est...
Mince, petit problème de liaison avec Éric Larose qu'on va retrouver, je pense, dans un instant. Mais c'est pas grave puisque on va pouvoir retrouver notre chroniqueur qui arrive pile à l'heure, notre chroniqueur qui lui aussi aime beaucoup la montagne sur RCF. « Et oui, c'est Pascal Gréboval, rédacteur en chef du magazine Kaizen, qui explore les solutions écologiques et sociales que nous retrouvons. Bonjour Pascal.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Bon, ça doit vous parler ce qu'on dit ce matin, car si j'ai de bonnes informations, de bonnes sources, vous étiez en montagne la semaine dernière.
On ne peut rien vous cacher Melchior, vous êtes bien informé. J'étais effectivement dans le Queyras, dans les Hautes-Alpes, pour faire un reportage sur la protection de la biodiversité l'hiver en montagne. Donc votre émission arrive à point. Et je vais en profiter pour développer cette question de la biodiversité l'hiver dont je n'avais pas pleinement conscience, j'avoue. Car pendant votre émission, Melchior, vous avez abordé différents sujets intéressants pour inciter le plus grand nombre à découvrir, randonner en montagne, et vous avez 100% raison. Je l'ai dit maintes fois à votre antenne, c'est au contact de la nature qu'on prend conscience de sa beauté, sa fragilité, et naturellement qu'on en prend soin. Et donc l'hiver, on peut, et j'encourage tout le monde, les auditeurs, les auditrices, à randonner en montagne. Mais fort de ce reportage dans le Queyras, j'attire chacun à être vigilant, à ne pas déranger la faune si vous allez en montagne pendant les vacances d'hiver à venir. Car je ne sais pas si c'est acquis pour tout le monde, mais c'est l'hiver que la faune est en plus grande fragilité, notamment en montagne. Et ceci pour diverses raisons. La nourriture est plus rare en période hivernale, elle est aussi moins riche. De même, comme nous, avec nos raquettes, nos skis de rando, les animaux ont plus de mal à se déplacer. À titre d'exemple, un chamois a besoin de 60 fois plus d'énergie lorsqu'il bouge dans 50 cm de neige que lors d'un déplacement à plat sans enfoncement. Résultat, autre exemple, un bouquetin peut perdre jusqu'à 30% de son poids en hiver. Je vous laisse compter pour vous combien ça représente.
Ouais, mais là, Pascal, vous parlez d'animaux qui vivent relativement et qu'on dérange pas facilement d'ailleurs.
C'est vrai, et il est vrai que seuls ceux qui se rendent dans les endroits les plus escarpés dérangent les espèces. Mais Melchior, avec de simples raquettes, on peut perturber la vie d'autres animaux, comme le tétralyre, par exemple, l'oiseau emblématique des Alpes. L'hiver, il creuse des igloos dans la poudreuse pour se protéger des prédateurs et du froid. Où il peut passer, tenez-vous bien, 90% de son temps sans vous en rendre compte, lors d'une simple randonnée en raquette où vous pouvez détruire ses igloos. Il lui faudra donc beaucoup d'énergie pour construire un nouvel igloo.
Est-ce à dire que vous incitez d'une certaine manière à rester au coin du feu pour ne pas déranger la faune l'hiver en montagne par exemple ?
Surtout pas Melchior, surtout pas. Sortez, respirez, admirez, aérez-vous, mais en respectant quelques règles. L'hiver encore plus que l'été d'ailleurs. Restez sur les traces déjà faites ou les chemins balisés. Évitez de casser les branches des arbres ou d'écraser les végétaux qui perdent sous la neige. Ce sont de vrais garde-manger pour les animaux l'hiver. Adoptez aussi la quiétude attitude, comme le recommande le massif des Vosges. L'hiver, en rando, on joue au roi du silence. Chut, écoutez le silence. Ça fait du bien. Si vous avez un chien, gardez-le en laisse ou laissez-le à la maison. C'est embêtant, mais les chiens sont considérés comme de vrais prédateurs pour la plupart des espèces sauvages l'hiver. Si votre chien se met à courir après un lièvre ou un autre animal, il risque de rendre sa survie très incertaine. Et enfin, si vous faites du ski de rando ou du freeride, ne partagez pas sur vos sites préférés ou sur les réseaux sociaux les combles, les cols, les petits coins cachés que vous avez découverts. Profitez-en égoïstement, c'est déjà bien. Vous pouvez publier bien sûr une belle photo du territoire où vous êtes, mais sans grande précision. Plus il y a de monde dans un lieu, plus ça dérange la faune. Tout ceci, Melchior, ne vous empêchera pas d'avoir de vrais moments de plaisir et d'émerveillement. Pendant ce reportage au Queyras, quelle ne fut pas mon émotion quand les éco-gardes du parc régional du Queyras, donc Antoine et Alexis, que j'accompagnais et dont la mission est de justement sensibiliser les randonneurs à la biodiversité, m'ont signalé des empreintes de loups dans la neige. Elles suivaient des empreintes de chevreuil. Pourtant, nous n'étions pas très haut sur un simple chemin de randonnée balisé. Ce n'était que de simples traces dans la neige qui traversaient notre chemin, mais c'était juste magnifique. La montagne est belle en été comme en hiver, mais le cœur, préservons-la.
Merci beaucoup Pascal Gréboval pour cette chronique rédacteur en chef du magazine Kaizen qui explore des solutions écologiques et sociales dont on peut retrouver plus d'informations sur le site kaizen-magazine.com. Éric Larose, on vous a retrouvé, il y a eu une petite coupure tout à l'heure, mais vous avez pu entendre cette belle chronique de Pascal qui nous dit « C'est au contact de la nature qu'on prend conscience de sa beauté, c'est une conviction pour vous également ?»
Oui, oui, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que, d'une part, par le festival de films et d'autre part, par les randonnées, on veut vraiment amener le public à voir la montagne, à voir ces espaces sauvages, à les partager et puis à les regarder avec un œil un petit peu éclairé d'un accompagnateur, d'une accompagnatrice ou d'un réalisateur de film qui va nous donner des clés de compréhension. Là, on parlait des loups, hein, des traces des loups. Effectivement, c'est le genre de choses qu'on propose aussi en randonnée. Les différentes formes de faune, hein, les lynx, les loups, les renards, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'on peut en détecter les traces, les indices de vie. Les indices de vie, c'est un petit peu un travail de détective qu'on va faire sur le terrain. Et si on n'a pas ces indices, l'œil pour lire ces indices, on passe à côté en général, on ne se rend pas compte. Donc ça, c'est vrai aussi pour la botanique. On a des randonnées autour des plantes comestibles. Est-ce que vous savez que quand vous vous baladez en montagne, il y a tout un tas de plantes qui sont comestibles que vous croisez ? Et en général, vous le savez pas, on n'en profite pas. Et voilà, donc c'est des choses à découvrir. Et puis après, on peut aussi aller sur des activités un peu plus historiques, comme la recherche du minerai d'argent dans l'Oisans, ce qui est une activité qui s'est développée du temps des Romains déjà, et qu'on peut retrouver et redécouvrir.
Il y a plein de choses à faire, on l'entend, à la montagne. Éric Larose, j'aimerais que vous nous racontiez peut-être une rencontre ou une anecdote autour de la montagne, quelque chose qui vous est arrivé, un moment qui vous a marqué à la montagne.
Un mouvement qui m'a particulièrement marqué et puis qui a aussi un petit peu orienté ma vie professionnelle et associative, hein, c'est la découverte d'une écaille rocheuse dans le sud du Vercors il y a un peu plus de 10 ans avec des collègues du laboratoire qui se sont rendus compte que cette écaille chantait et je me suis mis à l'étudier avec eux, étudier le chant de l'écaille. Voilà, les écailles, les falaises peuvent murmurer, elles peuvent former des notes qu'on peut pas entendre, hein, parce que ce sont des infrasons, mais on a des capteurs, des dispositifs qui permettent de capter ces vibrations. Et en étudiant cette écaille rocheuse dans le sud du Vercors, hein, au-dessus de Chichiliane, on a découvert qu'on pouvait un petit peu prédire son évolution, sa chute, hein, la catastrophe naturelle qui est associée, et puis un petit peu voir comment cette écaille, la note de l'écaille pouvait changer en fonction de la saison. Donc c'est à la fois très scientifique et aussi très poétique. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un moment vraiment particulier de où on arrive à relier la science avec des émotions et des impressions beaucoup plus artistiques et poétiques.
Voilà, une belle anecdote. Et vous, Hugues Chardonnay ?
Ah ben, je suis très intéressé par tout ce qui se dit et qui nous rappelle que la montagne et cet univers est une richesse incroyable. C'est un milieu d'une culture qui mérite vraiment d'être mieux connue et partagée, qui est le signe d'une planète finalement accueillante, dont on oublie qu'elle est accueillante pour tous et pour toutes. Et c'est le travail de notre association, bien sûr. Et on vous invite d'ailleurs à venir à la Grave le 10 septembre pour la rencontre de la montagne partagée et solidaire. Vous pourrez, comme ça, on pourra se partager des échanges avec des personnes de tous milieux sociaux, de toute culture, sur cet enrichissement mutuel grâce à la montagne.
Et ben voilà, c'est sur ces mots qu'on va pouvoir terminer. Vraiment, merci à tous les deux et même à Irène, hein, qui était avec nous tout à l'heure, de nous avoir partagé votre amour, votre passion pour la montagne. Ça s'est entendu. C'était très visuel, cette émission. Je sais pas comment expliquer, mais merci beaucoup, Hugues Chardonnay, délégué national de l'association 82 4000 Solidaires, dont on peut retrouver beaucoup plus d'informations. Et n'hésitez pas sur le site 82 4000.org. Merci Éric Larose également.
Merci beaucoup à vous
d'avoir été avec nous pendant quelques minutes. Vous êtes le président de l'association Montagne et Sciences, à retrouver sur le site montagne-science.fr, et le tout au pluriel, je tiens à préciser. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité comme chaque matin. Merci à Philippe, à Lucie, Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver demain de 9h à 11h. On va parler de l'amour chez les personnes âgées. C'est tout un programme. On va prendre un petit peu d'avance sur la Saint-Valentin. L'amour chez les personnes âgées, ce sera à 9h avec Madeleine Vatel. Et puis juste après, 10h, l'amour chez les jeunes. Comme ça, on va faire un beau lien intergénérationnel. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute la programmation de Je pense donc j'agis dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Et d'ici demain, je vous souhaite une bonne journée. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre programme local.